Bonjour, bienvenue sur Underscore. Encore une fois n'est pas coutume, mon ami belge est insupportable musicalement, mais par principe je vais asseoir ces mots sur des supports et pas que numériques. À vous d'écouter la suite.
Bonjour Mimam.
Bonjour Cécile, bonjour Doudou.
Coucou Mimam, coucou Cécile.
Eh ben, ami auditeur, bonjour. Lisa alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est insupportable.
Oh, c'est vrai? Il a un peu débordé parce que normalement nos sujets font 10 minutes et là c'est plutôt 16 qui nous a mis de texte, Medbel.
Néanmoins, on lui accorde.
Il est généreux alors.
On le remercie pour sa participation et nous allons effectivement parler de son sujet qui sera sur le support.
Mais d'abord, un tout petit peu d'actu.
Alors, qu'est-ce que tu vois dans l'actualité?
Darktable arrive en version 3.0.0. Ce logiciel de retouche d'image spécialisé dans le traitement de photos au format RAW, souvent qualifié de développement numérique, puisque les étapes de correction des paramètres de la photo y sont similaires au développement des films chimiques, apporte une nouvelle interface et de nombreuses améliorations.
David, j'ai fait bien le tigre.
La Cour constitutionnelle turque juge illégal le blocage de Wikipédia. Après 2 ans et demi de blocage, une association a porté plainte et a enfin été entendue par la justice de leur pays. Voilà, c'est heureusement quand même. Hein.
Windows 10 pourrait bientôt être disponible sous forme d'abonnement. Ah bah voyons.
Oh bah tiens, très bonne idée.
500 000 euros d'amende par la CNIL pour démarchage téléphonique. C'est l'amende infligée à une société spécialisée dans les opérations de type isolation à 1 euro. Bien fait.
Le projet Castafiore, une BD collaborative. L'expérience débutera le 1er mars 2020. Le travail collaboratif se déroulera sur le site castafiore.org, d'accès libre et gratuit. Les internautes seront impliqués dans l'écriture du scénario, la mise en page et la validation du dessin. C'est sympa comme initiative.
Mais oui, et on retrouvera les liens sur notre blog AAA.fr.
Une petite pause et puis on arrive au sujet.
A tout de suite.
Thank you.
Jolie petite pause de Synthwave avec Time Cop 1983 On The Run.
Oui.
On espère que vous avez bien profité de la musique. Pas entendu certaines micros qui seraient restés ouverts.
Je sais pas, on va vérifier.
Non, on sait pas. Alors, nous, le sujet effectivement du jour, on remercie Matt Bell chaleureusement pour sa participation à notre émission de radio. L'histoire du support de la musique.
Et oui, le monde était en effervescence cette semaine avec des informations selon laquelle Taylor Swift avait supprimé sa musique de Spotify. Elle a qualifié le service de grande expérience et dit qu'elle n'en voulait pas. L'auteur de musique Bob Lefzetz a déclaré que ce n'était qu'un coup de pub. Le rocker des années 80, Sebastian Bach, qui ressemble un peu à Taylor Swift, a déclaré que les fans apprécient davantage la musique quand ils doivent payer. Taylor Swift, je ne veux pas contribuer le travail de ma vie à une expérience qui ne rémunère pas équitablement les artistes. Mais on nous a tous dit un million de fois que la vieille industrie de la musique est en train de mourir. Les magasins de disques ont disparu et les labels ferment. Plus précisément, les dirigeants des maisons de disques des années 90 ont quitté définitivement le bon vieux temps où les albums devenaient platine. L'industrie du disque, comme la plupart des gens le savent, n'était qu'une courte période de 100 ans dans l'espace-temps de l'histoire de l'industrie musicale. Un espace pour résoudre un problème temporaire qui existait entre l'invention de l'enregistrement sonore, 1877, et l'invention de l'Internet, 1990. Enfin, ça date d'un peu avant, mais sa généralisation. Peu d'autres formes d'art permettent aux artistes de s'enrichir de copies de leur art. Comment les musiciens ont-ils eu autant de chance? Voici un peu d'histoire. Le cylindre phonographique en 1877. Le pionnier du format physique, le cylindre phonographique, aussi connu sous le nom de cylindre Edison, fut le premier support musical à être commercialisé. Quelques années plus tard, avec l'arrivée du disque, nombreux étaient ceux qui trouvaient que les cylindres offraient un meilleur son, déjà. En 1889, apparaît le disque micro-sillon, une des nombreuses incarnations de ce qui deviendra plus tard le 78 tours. Ce disque en gomme lac dont la taille variait initialement entre 5 pouces, 12 cm 50, 7 pouces, 10 pouces et 12 pouces, ça fait 30 cm, était produit par la Gramophone Company d'Emil Berliner. Ces versions aplaties du cylindre phonographique étaient lues sur des platines actionnées à la main. On peut donc imaginer que les disques ne tournaient pas exactement à 78 tours par minute. En 1898 apparaît le télégraphone, inventé par le Danois Valdemar Poulsen. En 1898, cet appareil est le premier à proposer une méthode d'enregistrement audio en utilisant un fil d'acier comme support magnétique. Cependant, cette méthode ne connaîtra un véritable essor que dans les années 40 et 50 avec le début des enregistrements maison. Puis vient l'enregistrement électrique des 78 tours en 1920. Donc au début du XXe siècle, le disque phonographique en gomme lac devient le standard. Alors au début du siècle, ça devient le standard. La vitesse de lecture, quant à elle, ne sera standardisée qu'avec l'arrivée de l'enregistrement électrique. Et c'est aussi à cette époque que les tailles de disques commencent à être normalisées. 7 pouces, 10 pouces et 12 pouces. Notons cependant que la vitesse de lecture n'était pas absolument exacte et dépendait de la puissance du courant transmis. Il y a le Transcription Disc en 1930. C'est un format un peu particulier puisque ce disque de 16 pouces, ça fait 40 cm et demi, de diamètre, avait une utilisation légèrement à part. Ces disques étaient principalement utilisés pour enregistrer des émissions destinées à la radio. Certains événements historiques importants, tels que la catastrophe du LZ-129 Hindenburg, ainsi que des batailles ayant eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été enregistrées sur Transcription Disc. En 1934, on a eu l'acétate, aussi connu sous le nom de dubplate. Donc le disque acétate est aujourd'hui principalement utilisé en studio de mastering. Avant 1934, ces disques étaient faits d'acétate de cellulose. Ces disques, généralement, mesuraient 25 cm, donc ça fait 10 pouces. Et ils sont moins solides que les disques vinyles ou gomme lac et ont une espérance de vie réduite par rapport à ces autres matériaux.
En 1935, les magnétophones à bandes, principalement utilisés par les professionnels du son, les maisons de disques ont bien été tentées de vendre les albums sur bande, principalement d'artistes relativement méconnus, mais sans grand succès. De nos jours, ce type d'appareil est largement cantonné aux studios de mastering. En 1936, le Tefifon, imaginez le croisement entre le disque vinyle et une bande magnétique, et vous aurez une petite idée de ce qu'était le Tefiflon.
Tefi, fond, les petits marionnettes.
Une cartouche à bande vinyle pouvant contenir jusqu'à 4 heures de musique, conçue en Allemagne, le Tefi-fond a pu être vu comme le premier format offrant une possibilité de créer des compilations. Il fut souvent utilisé pour rassembler des chansons populaires ou encore pour enregistrer des opéras entiers. Les maisons de disques n'ayant montré absolument aucun intérêt pour le Tefi-fond, ce format, pourtant prometteur, était alors réservé aux connaisseurs et à la presse spécialisée. En 1948, le vinyle ou LP. La naissance du vinyle de micro-sillon 33 tours, un tiers, introduit sur le marché par Columbia Records en 1948, il n'a fallu pas longtemps pour que l'industrie du disque général adopte ce format, et le disque vinyle n'a pas vraiment changé en presque 70 ans. C'est Frank Sinatra qui fut le premier artiste à sortir sur ce format avec une réédition de The Voice of Frank Sinatra, sortie 2 ans plus tôt en 78 tours. 1962, c'est le disque Flexi. Comment ne pas adorer le gimmick marketing? Le Flexi-disc, aussi appelé le Sonosheet en anglais, était offert avec le magazine. Livres et paquets de céréales étaient particulièrement appréciés en Russie, où ce support a influencé le phénoménal X-Ray Bootleg.
C'est des enregistrements pirates, en fait, qui se passaient sous le manteau.
Oui, l'un des formats les plus étranges que l'on puisse trouver. En 1963, la cassette audio a complètement bouleversé l'industrie musicale, favorisant le développement de bootleg, de la copie privée, considérée comme une véritable menace au sein de l'industrie du disque. Oh, j'ai peur.
Home taping is killing the music industry. Sure. Ouais, y avait un groupe qui avait fait ça, qui avait marqué ça sur la cassette. Home taping is killing the music industry profits. We made this side blank so you can help. Hein, les cassettes pourrissent les revenus de l'industrie du disque et on a laissé une face vide pour que vous puissiez aider.
Ouais, ainsi donc la culture hip-hop. Mentionnons également que les innombrables compilations, échanges et découvertes que ce support a permis. En 1964, les cartouches 8 pistes. Si vous avez grandi dans les années 60 et 70, vous vous souvenez probablement de ces cartouches. Avec ces 8 pistes parallèles correspondant à 4 morceaux en stéréo, cette cartouche permettait alors de ne plus être encombrée par les disques et est devenue un format privilégié pour les autoradios.
Ouais, j'ai l'impression que c'était plutôt aux US, ça.
Ouais. 1969, la micro-cassette, ni plus ni moins qu'une version compacte de la cassette audio. Le défi était de réussir à faire entrer la même longueur de bande dans un format plus restreint. Si vous vous souvenez de la série Twin Peaks, on peut voir l'agent Cooper enregistrer toutes ses pensées sur micro-cassette, sa petite taille lui permettant de tenir dans sa poche, et en fait alors un objet idéal pour enregistrer des concerts. Le prix élevé de la MC a cependant précipité sa disparition, même si cette dernière est encore parfois utilisée de nos jours pour certains dictaphones. 1971, la disquette. De nos jours, nous utilisons tous des clés USB ou encore des supports de stockage tels que Dropbox.
Ouh, c'est pas bien.
Ouais, mais il fut un temps où la disquette régnait en maître. La version la plus populaire était la disquette 3,5 pouces, pouvant contenir 1,44 mégas de données. Certains artistes sont revenus vers ce format au cours des dernières années pour des raisons esthétiques ou pour en faire un gimmick marketing.
Yeah, don't copy that, floppy.
Sure. 1975, c'est le Betamax, le premier support vidéo de format cassette développé par Sony. La Betamax a mis en route la révolution qui changea l'industrie du film, rapidement supplantée par le format VHS, représenté par JVC. Un an plus tard, la Betamax, bien plus petite et offrant une qualité d'image supérieure, ne pouvait rivaliser face au prix attractif de la VHS qui pouvait contenir un film entier. Avant de complètement disparaître du marché, la Betamax fut encore utilisée par les ingénieurs du son pour le mastering numérique.
Ah, c'est cool.
1976, la VHS. Pendant les décennies, la VHS était le support privilégié pour les films, mais ce support était également utilisé par l'industrie musicale dès le début des années 80, notamment pour les clips et les singles. Ce type de cassette a connu un gain de popularité considérable avec la sortie du clip de Justify My Love de Madonna en 1990 suite au refus de la chaîne MTV de diffuser la vidéo. En 1982, sort une évolution du format avec l'ajout de pistes Hi-Fi stéréo de très bonne qualité, mais plutôt à destination des films pour le home cinéma. Besoin d'un magnétophone avec 2 têtes supplémentaires pour l'audio. Cette amélioration n'a cependant pas permis de supplanter le CD vidéo pour la musique puis le DVD. 1978, c'est le Laserdisc, le LD, ouais. Le premier disque optique à être commercialisé bien avant le DVD et le Blu-ray. Ce disque, généralement de 12 pouces, 30,5 cm, aux allures de vinyle, existait également en version 8 et 5 pouces. Bien que ce format fût utilisé dans le milieu de la musique pour le clip, compilation, enregistrement de concerts et les documentaires, le LD se destinait principalement à l'industrie cinématographique. Offrant une qualité supérieure à la VHS ou à la Betamax, le Laserdisc n'a pourtant pas connu un grand succès en Europe à cause de son prix élevé et du fait que la concurrence proposait des supports enregistrables. Le LD a pourtant rencontré un accueil favorable dans certaines régions d'Extrême-Orient, principalement chez les cinéphiles et les collectionneurs.
Il y en a encore qui fouillent hein, dans des magasins d'occasion pour trouver.
Pour avoir des vieilles éditions, par exemple, de Star Wars, avec certains doublages qui ont été corrigés par la suite, puisque Lucas aime bien trifouiller ses films. Alors, en 1982, le disque compact.
Ouais.
Alors, les prémices du disque compact. En 1974, Philips commence à travailler sur un projet de disque audio optique, dans le but de prendre la relève du vinyle, jugé trop encombrant. Le nom de disque compact fut choisi de façon à aller de pair avec un autre projet de Philips, la cassette compacte. De son côté, Sony développait également sa version du CD et présenta son projet en 1976. Les deux fabricants décidèrent alors de s'associer et ils sortirent le CD en 1982. La cassette DAT en 1987, DAT Digital Audio Tape. D'apparence similaire à une cassette classique, bien que deux fois plus petite, la cassette DAT permet un enregistrement numérique plutôt qu'analogique. Destinée à remplacer la cassette audio, la DAT n'a pas reçu l'accueil espéré en raison de son prix et de l'inquiétude des maisons de disques concernant l'apparition de copies de grande qualité. La cassette DAT a tout de même connu un vif succès dans le milieu de l'enregistrement professionnel et amateur. Le mini-disque en 1991. Laissant la DAT aux professionnels de la musique, Sony décide de lancer son nouveau support audio numérique. Le mini-disque. Alors là, par contre, on arrive sur un support à perte, hein, rapport aux autres. Combinant le son du CD et la taille de la cassette, le mini-disque n'a pourtant jamais rencontré de franc succès. Avec seulement 50 000 lecteurs vendus lors de l'année de sa sortie, les ventes du mini-disque ont poussé Sony à se désintéresser de ce support. Quelques années plus tard, l'apparition du CD enregistrable et l'arrivée de l'iPod d'Apple sur le marché sonnèrent alors le glas du mini-disque.
Et pourtant, il était sympa, hein.
Très sympa, il y avait des modèles, puisqu'il n'y avait pas que Sony qu'en faisait, il y avait un autre qu'en faisait, je ne sais pas si c'était Brandt ou Toshiba qui avait entrée et sortie optique, et donc on avait vraiment une bonne qualité, mais après voilà, ça restait à perte. La cassette DCC en 92, cette tentative commune de Matsuita et Philips d'offrir un successeur à la cassette analogique était proposée comme une alternative à la DAT pour un prix moindre et comme concurrent direct du mini-disque. Malgré leur qualité supérieure, aucun de ces trois supports ne parvint à détrôner la cassette audio. Le vidéo CD VCD en 1993, développé par Sony, Matsuita, Philips et JVC, ce disque de 650 mégas peut, contenir près de 74 minutes de vidéo avec un son en stéréo au format MPEG 1. Lisible sur les lecteurs CD-ROM, puis sur les lecteurs DVD, ce support, cependant peu distribué en Europe et aux USA, mais connaît un véritable essor en Asie de l'Est et du Sud-Est. Le Super Vidéo CD, SVCD, lui succédera en 1998, offrant une qualité supérieure ainsi que la possibilité de bénéficier du son au format 5.1 grâce au format MPEG 2.
On en avait certains qui pouvaient aller jusqu'à 80 minutes.
Oula, ouais, en faisant de l'overburning, je crois que j'avais même vu du 90 minutes, mais fallait le graveur calait et le lecteur calait.
Ça marchait peut-être pas sur toutes les platines après derrière.
Voilà, il fallait. Mais ça. À chaque fois qu'en fait les générations sortaient, ils amélioraient la précision, donc ils resserraient les sillons. Le Super Audio CD en 1999. Apparu en 1999, ce disque optique fut développé par Sony et Philips dans le but de succéder au CD. Jugé comme un échec commercial par la presse à cause de son faible impact sur le grand public, le SACD connaît toujours une véritable popularité auprès des audiophiles.
Ah, j'en avais récupéré un de ça, j'en ai un disque comme ça, et en fait j'avais regardé, et en fait ils avaient utilisé les bits qui correspondaient à des contrôles d'erreur pour rajouter des informations en plus. Donc du coup, en fait, il ne fallait surtout pas les rayer parce que du coup, ça ne marchait plus du tout. Quoi.
Et puis surtout, il y a eu un gros problème avec ce support. C'est même si techniquement il est meilleur, il n'y a pas grand monde qui pouvait faire la différence vraiment.
Ouais, même si effectivement tu pouvais arriver à le lire sur une platine CD normale parce que c'était compatible, c'est juste qu'il trépatouillait les infos quoi.
Mais surtout, c'était les mêmes masters souvent. En fait, il prenait le CD audio et il faisait copie-colle dans le SACD et on gagnait pas de enfin on gagnait rien, il y avait pas de gain tout court.
Ouais.
La clé USB 2000. De nombreux artistes ont vendu ou offert des clés USB contenant de la musique. Souvent cité comme étant le premier groupe à avoir proposé ce format, les Allemands de Wieso sortent l'Extended Play Stick en 2004, contenant 5 fichiers MP3 en haut débit, accompagnés de vidéos, photos, paroles et tablatures. En 2011, l'artiste britannique Carl Cox sort All Roads to the Dance Floor sur clé USB. L'album offrait également la possibilité de télécharger du contenu interactif supplémentaire via Internet.
Il y a même des artistes qui proposaient à chaque concert de récupérer l'enregistrement original du concert où on était, en fait, avec les USB.
Le Dual Disc DD 2005, ce disque optique à double face composé d'une face CD et d'une face DVD, fut développé pour rivaliser le SACD de Sony et Philips. Le Dual Disc a servi pour nombre de rééditions d'albums en son stéréo, de documentaires, de clips, ainsi que pour contenir un film accompagné de sa bande originale sur l'autre face. Le Blu-ray Audiophile Pure Audio, le BDA, en 2013, bénéficiant de l'appui du groupe Universal Music, le Blu-ray Pure Audio ouvre les portes du son studio au grand public. Vu par les audiophiles et les professionnels du son comme l'héritier potentiel du CD, ce format n'est pas sans rappeler le DVD-A ou le SACD, à la différence que l'impressionnante capacité de stockage du Blu-ray Pure Audio, 25Go pour un simple couche et 50Go pour un double couche, permet de stocker des fichiers non compressés. Lisibles sur n'importe quel lecteur Blu-ray, PS3 et PS4 comprises, il vous suffit alors de relier votre lecteur à un ampli home cinéma par le biais d'un câble HDMI pour profiter d'une qualité sonore aujourd'hui inégalée. Et après, on met ça sur des petites enceintes ridicules de salon un ampli asthmatique.
Et c'est tout pourri.
Dans une pièce non traitée, et on aura de l'écho et un son pas terrible.
Ah, soyons pas médisants.
Combien de ces millions de personnes n'aimaient qu'une seule piste mais devaient acheter l'album entier ? iTunes a corrigé cela en découplant les pistes des albums. Combien de ces millions ont mis l'album sur une étagère et ne l'ont jamais écouté ? Spotify a corrigé cela, les artistes ne sont payés que pour les pièces. En se retirant des services de streaming, Taylor Swift ajoute intentionnellement de l'inefficacité au marché. Aujourd'hui, il y a plus de possibilités que jamais pour les musiciens. Les superstars de demain en profitent maintenant en publiant des vidéos YouTube virales, en mettant leur spectacle à mort sur Instagram, en utilisant Eventbrite pour vendre des billets directement, en utilisant Meetup pour organiser des événements, se faisant découvrir sur Hype Machine. Hype Machine est un site internet qui regroupe les blogs musicaux. Celui-ci a été fondé en 2005 par Anthony Volodkin, un étudiant de l'université d'Hunter. On peut écouter la plupart des musiques qui sont d'une excellente qualité, mais on ne peut pas les télécharger pour accéder à iTunes, Spotify, Amazon et partout ailleurs, tout en conservant 100% de redevances, le tout sans avoir besoin d'une maison de disques. On pourrait parler aussi de Radiohead qui met des fichiers gratuitement à disposition et on paye si on veut. Ou si on veut pas, enfin sur la base du volontariat.
Il y a Mark Cerone qui avait mis son album en téléchargement à un moment pendant une semaine, un truc comme ça.
Voilà, il y a des groupes qui offrent leur premier album, c'est pas qu'il est moins bien, mais ils l'offrent parce que c'est le premier pour se faire connaître et qui ensuite font des albums payants.
Il y a des gens aussi qui font de la musique libre, donc ils donnent à tout le monde le droit de copier, ce qui n'empêche pas de faire des dons aussi.
J'allais y venir, il y a plusieurs sites de musique.
Mendo, Dogmazic, entre autres.
Bien sûr, voilà, support ou pas support, c'est l'auditeur qui choisit, mais la réponse c'est la musique, et quand la musique est bonne...
Quand la musique est bonne, 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 bonne.
Non. On lui a pas donné encore des royalties, les gars.
Ah, sinon, il y a Content ID qui va... Hein, il va pas être content, ID.
C'est ça.
Bon, allez. Bon, ben, un petit coup d'agenda.
Merci Matt Bell pour ton sujet. Merci. Et puis, qu'est-ce qui se passe alors? Eh ben oui, il y a un repère café au Val. Pour lutter contre l'obsolescence programmée, pour apprendre à réparer soi-même et comprendre comment fonctionnent nos appareils, le repère Café du Val est là. Sur inscription, le lundi 27 janvier de 18h à 20h30 au Valence Atelier Libre, 13 bis rue Montplaisir à Valence. On fera quelques réparations autour d'un verre, donc amis bricoleurs, bidouilleurs, venez, n'hésitez pas à tenter votre chance pour donner une seconde vie à vos appareils.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Soirée rencontre débat, l'analyse de cycle de vie des objets, dans le cadre de l'Open Bidouille. Qu'est-ce que l'analyse du cycle de vie des objets ? Pardon. Quels en sont les enjeux et quels outils pour évaluer les impacts écologiques de la fabrication d'un produit ? Rencontre organisée par le meet-up Data for Good et illustrée par des témoignages d'acteurs drômois, Bertrand Vignolous, designer, présentera les enjeux. Julie Orgelet, consultante, nous parlera éco-conception des services du numérique à travers le projet NegaOctet. Barthélémy Durette, chercheur indépendant en sciences des données, nous présentera le logiciel R. Entrée libre, rencontre suivie d'un pot partagé le 30 janvier de 18 à 21h au 8 Fab Lab Ruy. 8 rue Courcomère à Cray.
Open Toons en avant-marche, découverte et expérimentation de logiciels libres d'infographie et de retouche d'images avec les étudiants en communication de licence Colibre. Donc chaque séance est l'occasion de découvrir une technique de création visuelle en utilisant un logiciel libre pratique et adapté. Et cette séance, ils abordent Open Toons. C'est un logiciel utilisé par les grands studios d'animation japonais, de Studio Ghibli. Hein. C'est eux qui l'ont créé et qui ont ouvert le code, ce qui a permis d'ailleurs de le porter sur Linux. Et donc il est à présent libre et gratuit. Donc ça c'est gratuit sur inscription, jeudi 30 janvier de 19h à 21h à la Maison pour tous, 249 rue Vendôme à Lyon.
On va frotter la boule de cristal.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Attention. 6 admins, on a fait une chute d'âne d'urgence. Une chute d'âne ? Ah, un shutdown.
Libriste, si test disque marche pas, c'est la photorec.
Technophile, avant j'étais athée, après j'étais ATX, maintenant je sais plus trop quel est le format habituel des cartes mères.
DevOps, avec les CI, et si on mettait des builds en bouteille ?
Procrastinateur, ah, qu'est-ce qu'on a ?
Chanson.
Mon premier, c'est ajournement. Mon deuxième, du sursis. Mon troisième, c'est je suis en retard. Ouh, et m'ont tout fait des souvenirs. Ouais, c'est encore un coup de maître belle, hein, celle-là.
Religion, après les pastafariens, les pizzafariens.
Mais ça sent bon la pizza !
La pizza !
Manque pizza.
Manque pizza, je crois que tu vas manger une pizza.
Si.
Il y avait beaucoup de pizza l'autre jour au vœu de Radio Méga.
En tout cas, merci à Minutateur de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission.
Oui, parce que c'est dur, hein. C'est un challenge.
Néanmoins, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission. Ouais. Et on vous laisse découvrir bientôt ce que ça va être, parce que c'est la surprise.
Bah, il faut qu'on trouve des sujets, surtout.
Bientôt.
À plus.
Bientôt, c'est promis. Bisous.
À bientôt.